Alors, la semaine prochaine, je serai à la convention de France Évangélisation, qui dure une semaine. D'habitude, il y a un orateur extérieur qui vient pour nous enseigner, nous encourager. Là, ici, ce sont les évangélistes qui vont intervenir chaque matin. Et donc, on m'a, entre guillemets, imposé un texte. Donc, j'ai pas mal travaillé ce texte et je vous propose de vous le partager ce matin. Donc, c'est sur la deuxième lettre à Timothée. Et c'est le chapitre 3 que nous lirons en entier. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînés par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrée se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égorant les autres et en s'égorant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Voilà. Alors quand on commence à lire le début du chapitre, on se demande qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de ça, parce que c'est toute une liste, une description un peu de l'état du cœur de l'homme qui est plutôt à faire frémir. Et vous avez vu ici, on pourrait couper le texte en deux parties, les versets 1 à 9 et 10 à 17. Et il introduit cette première partie en disant qu'il y a un danger qui guette l'Église. Mais ce n'est pas le danger qui guette une Église locale. Mettons à Corinthe, le danger, c'est que les gens, ils avaient l'Évangile, mais ils vivaient à côté un peu comme des païens. Hein, certains arrivaient à la Seine, ils avaient bu, tandis que d'autres avaient faim. Certains allaient aux prostituées la semaine et venaient quand même au culte le dimanche. Il y avait beaucoup de divisions, et l'apôtre Paul leur dit, faut régler ça, sinon l'Église va exploser. Mais là, c'est pas ça. Ce n'est pas aussi le danger d'un groupement d'Églises, comme la lettre que l'apôtre Paul écrit aux églises de la Galatie, où les faux docteurs sont rentrés, ont mis des fausses doctrines et ont tiré apparemment pas mal d'églises de leur côté. Ici, il s'agit d'une période, qui est appelée dans les derniers jours. Et donc, le danger, quelque part, est plus important et touche toutes les églises. Hein, et c'est toutes les églises qui doivent être vigilantes. Je dirais que quand on lit la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle dans une situation précise, à une église précise, et bien sûr qu'aujourd'hui, on peut en tirer des enseignements pour nous. Mais là, dans ce passage-là, on a l'impression que l'apôtre Paul s'adresse quand même à toute l'église, même s'il parle à Timothée. Et je trouve que nous devons méditer ces paroles, parce que ce qui ressort pour moi, la chose principale, c'est qu'on est appelé à la vigilance. Il y a une expression « dans les derniers jours ». Je ne dois pas trop surprendre Timothée, parce que Paul l'a déjà employé dans sa première lettre, il dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Et tout le monde est d'accord pour dire que les derniers jours, les derniers temps, ça compte à partir de la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Alors, les cinq premiers versets, une description de l'homme en général, une description du cœur de l'homme, de son état, qui fait un peu frémir. Bien sûr, c'est des généralités, et qu'on les lit comme ça, ça fait un peu de crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on pense aux paroles de Jésus qui a dit que le mal sort du cœur de l'homme, et lui aussi il fait une liste, hein, pas tout à fait de la même manière, mais aussi une liste, et il dit le mal est dans le cœur de l'homme. Il ne parle pas de la société mauvaise dans laquelle on vit. Hein, et bien des fois, dans notre société, quand on condamne des gens, les avocats vont aller rechercher, lui, mais dans son enfance, il lui a arrivé ici, il a été abandonné, da-da-da-da. On essaie de voir tout ce qu'il y a à l'extérieur, pourquoi il ressort comme ça, tandis que l'Écriture montre, non, c'est de l'intérieur déjà qu'il faut voir la chose, c'est que le mal est à l'intérieur de l'homme. Et ce n'est pas la société qui nous rend mauvais, même si le contexte dans lequel on vit va forcément avoir une influence sur nous. Et pas vraiment de l'état d'homme pécheur. Il parle de ce péché qui règne dans le cœur de l'homme. Et en première chose, l'apôtre Paul dit que les hommes seront égoïstes. L'égoïste, hein, celui qui s'aime lui-même, qui est centré sur lui-même. Et après, au milieu de la liste, il parle de l'orgueil. Hein, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Et il parle des hommes en général. Il ne parle pas, regardez, les faux docteurs sont comme ça, ou les faux apôtres, c'est comme ça. Il parle les hommes, car les hommes seront. Mais d'autres textes nous montrent que les hommes, à son époque, sont déjà comme ça. Alors, est-ce qu'il faut voir une progression dans le mal, dans le cœur de l'homme, qui ira de plus en plus loin dans le mal? En tout cas, certains le pensent. Mais avec ces deux adjectifs, égoïste et orgueilleux, on peut comprendre une chose, c'est que l'humanité met au centre de la vie l'homme avec un grand H. Tout pour moi. Et une des définitions d'un égoïste, donc selon Cindy McLeod, vous connaissez, mais une fois, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et en fait, d'après ces paroles de l'apôtre Paul, d'après ce que je comprends, il dit, enfin, la vie pour Paul se résume à « je ne pense qu'à moi, normal, je suis le meilleur, mais je garde quand même un vernis de religiosité ». Quand il dit que ces gens ont l'apparence de la piété. C'est vrai qu'on pourrait dire aussi, je ne peux pas m'occuper des autres, encore moins de Dieu, car je suis ébloui par mon super nombril. Voilà l'état des hommes, mais aussi après leur comportement. Je remarque une chose importante, hein, c'est qu'après avoir décrit ces hommes, l'apôtre Paul encourage Timothée à se séparer d'eux. Sépare-toi des hommes comme ça. Je vous rappelle que dans l'Écriture, être saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu, être séparé du mal. Donc, en quelque part, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que si tu veux rester saint, sépare-toi des hommes comme ça, parce que ces gens-là avaient évidemment une mauvaise influence, puisqu'ils arrivaient quand même à tirer des gens vers eux. Et elle met en garde que ces gens vont garder une apparence de piété. Donc ils ne vont pas être si faciles que ça à discerner. Parce qu'au milieu du troupeau, ils auront l'apparence de la piété. Hein, et il faudra peut-être les côtoyer et voir les fruits qu'ils portent pour vraiment discerner qui ils sont. Mais je me suis posé la question, et je je vais dire une chose, en même temps c'est vraiment une question. Donc est-ce que je dois déduire de ce texte que ces gens dont l'apôtre Paul dit les hommes et tout, mais après on a l'impression qu'il parle d'une catégorie d'hommes. Alors je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'Église et pas à côté de l'Église? Est-ce qu'il, comme il parle des hommes en général, on peut dire oui c'est l'état des hommes et tout, mais il parle quand même des gens qui gardent une apparence de piété. Est-ce que nous, on va aller dire, le païen à côté, il a une apparence de piété, je veux dire, à la limite, il ne nous touche pas, son comportement ne nous touche pas spécialement. Par contre, si c'est quelqu'un comme les faux docteurs que l'apôtre Paul va, contre lesquels l'apôtre Paul va lutter, et qui rentre là, il y a un danger qui est beaucoup plus grand, et on comprendrait mieux l'exhortation, sépare-toi de ces gens-là. Mais derrière, il y a peut-être aussi l'exhortation, c'est parler de l'Église. Je vais même dire qu'au moins dans nos petites églises, un avantage c'est qu'on apprend à se connaître. On vit par les uns chez les autres quand même, mais je veux dire, on apprend à se connaître et tout. C'est une sorte de protection, mais des gens comme ça, qui rentrent dans une église où vous êtes 400 membres et tout, ils sont beaucoup plus difficiles à discerner que dans une église où on est 20 et on sait comment les gens vivent. Mais la question qu'à se poser quand même, c'est quand on discerne des gens comme ça, c'est comment réagissons-nous aujourd'hui par rapport à ce genre de personnes. Je crois avoir raconté dans les deux églises ce petit témoignage d'une personne qui est venue à l'église à Baccara, qui faisait des très belles prières, qui avait des prophéties un peu sur tout le monde, mais seulement dérangeait beaucoup les gens. Il m'était vraiment mal à l'aise quand il prenait la parole. Et les responsables, nous avons pris la décision de l'exclure de l'église. Hein? Et quelques temps après, j'ai vu qu'il était orateur dans un grand rassemblement de jeunes. J'ai téléphoné au responsable pour dire « Attention, il y a un danger avec cette personne. » Alors ma question que je vous pose, quand j'ai fait ça, est-ce que j'ai jugé et que j'ai mal agi? Ou est-ce que j'ai discerné et j'ai pris la bonne décision? Parce que ce frère est toujours dans les églises. Et nous, on a un peu l'idée, dans nos milieux évangéliques, qu'on ne doit pas juger les autres. Mais, relisez la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, où je fais presque l'église, il n'y a personne parmi vous qui est capable de juger dans telle situation. Donc finalement, ce n'est pas facile de discerner, de voir des gens comme ça et de savoir quelle décision vous allez prendre. Parce que quand vous prenez une décision comme ça, vous avez toujours une partie de l'Église qui vient vous mettre un coup de bâton en disant « mais vous avez jugé ». Alors, quand Paul dit « sépare-toi ces gens-là », il dit ça pourquoi? Est-ce qu'on serait capable de demander aux gens de l'Église de se séparer d'une personne parce que cette personne porte les fruits qui sont décrits là? On discerne que cette personne est mauvaise? Moi j'ai dit que c'est pas facile et qu'on a vraiment besoin que le Seigneur dans sa grâce nous accorde le discernement et la sagesse pour savoir prendre les bonnes décisions. N'oublions pas que dans le contexte, l'apôtre Paul a souvent dû se battre contre les faux docteurs. Vraiment, c'était une lutte permanente pour lui. Il faisait un travail dans une région, les faux docteurs arrivaient, essayaient d'entraîner les églises. Je vous rappelle en plus que toutes les persécutions dans les actes des apôtres viennent des juifs qui disaient « Attention, il fait un faux message et tout, vous devez vous circoncire, vous devez faire cela » et ils s'arrangeaient toujours pour que l'apôtre Paul soit persécuté, expulsé, mis en prison. Vous avez vu que ces personnes ne sont pas dénoncées comme ennemies de Dieu ou ennemis de l'Église, mais comme amis du plaisir plutôt que de Dieu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive ouvertement en ennemi, quelqu'un, un athée qui écrit un livre comme, comment il s'appelle, Michel Onfray, je crois, un athée clair. Ben, il écrit un livre, on sait qu'il est contre l'Église, on sait que dans ce bouquin, ben, on ne va pas être d'accord et tout, qu'il attaque. Mais les gens-là, vous voyez, c'est dit, ils sont plus ennemis du plaisir que de Dieu. Donc ils ne sont pas totalement sans Dieu. Vous voyez, c'est ça aussi qui sème le trouble. En tout cas, par rapport au fait d'être ami du plaisir, ben, je me suis arrêté sur cette phrase. Et je me suis posé des questions. Hein, tout le monde sait que je me pose des questions. Et je me dis, finalement, ça doit nous en parler, nous parler à nous tous personnellement. Mais je me suis parlé à moi et je me suis dit, Jean-Pierre, quelle place fais-tu au Seigneur dans ta vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas des idoles du plaisir à battre avant qu'elles ne deviennent trop grandes et fassent de l'ombre au trône de Dieu? Parce que moi, ce que j'aurais aimé dans la lettre, c'est de savoir le point de départ de ces gens, hein, qui ont plus de plaisir, qui cherchent plus le plaisir plutôt que Dieu. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça a fait que ça a déclenché comme ça. Est-ce que c'était Internet, Facebook, tout ça qui les a pris et qui sont... Donc je me suis dit, les vrais amis de Dieu ne sont-ils pas ceux qui m'amènent plus loin avec Dieu plutôt que ceux qui m'entraînent loin de Dieu? Et quand je fais quelque chose, même un plaisir, je peux aller vite réfléchir. Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou pas? Je n'ai pas dit qu'il fallait pas avoir de plaisir. Hein. Moi, j'aime bien des fois aller courir dans les bois et tout. Je veux dire, on me sent proche de Dieu, bien sûr, parce que je suis dans la nature. Mais je dis, voilà, j'aime bien regarder un film à la télé, que ça mitraille, tout ça, blablabla, les voitures se poursuivent. J'aime bien ça, moi. Ça me détend. Il n'y a pas à réfléchir, tout ça. Vous enlevez votre cerveau, regardez un film, vous mettez le cerveau après. Voilà, c'est un moment de détente. Donc, je ne suis pas contre le plaisir. Mais quand le plaisir me donne tellement de plaisir que j'ai besoin de ce plaisir parce qu'il me donne du plaisir et que ça devient une drogue, je commence peut-être à me poser la question dans lequel attends là. Si tu commences à faire sauter les rayons de l'église pour un plaisir, on peut se poser la question. Une des caractéristiques des derniers temps, c'est la religiosité. Samuel Benetro, qui a écrit un commentaire sur Timothée, a dit « La piété qui implique dans les lettres pastorales à la fois une juste relation à Dieu et une conduite en harmonie avec elle, a nécessairement une apparence, une forme, elle suppose des paroles, des gestes, des attitudes, des actions spécifiques. » Mais l'apôtre Paul dit aussi qu'il n'y a pas de véritable piété sans cette force qui nous vient de Dieu, qui nous donne de vivre selon les commandements de Dieu. Et nous pouvons comprendre qu'on a besoin de l'action gracieuse de l'Esprit dans notre vie pour avancer dans notre vie de piété, que ce soit la prière, la méditation, la contemplation, que ce soit de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu met devant nous. L'apôtre Paul dit aussi que dans le comportement de ces personnes, eh ben, il y en a qui s'introduisent chez des femmes faibles, qui aiment le plaisir, qui sont chargées de péché. Ah, vous voyez, je vous dis ça comme ça en deux minutes, mais ça m'a pris du temps de dire, maintenant, il passe des gens de l'église, hein, les femmes là dans le plaisir, chargées de péché. Je trouvais l'expression forte. C'est pas... Hein, on n'est pas à leur époque, mais enfin, ça pose quand même des questions. Maintenant, une chose est claire, c'est que les loups s'attaquent toujours aux faibles. Hein, dans un troupeau de brebis, ça, c'est peut-être la brebis qui traîne à l'arrière avec la patte cassée que le loup va venir dévorer. Mais là, les femmes sont décrites comme chargées de péché, des femmes apparemment crédules. Et je suppose que le message des personnes qui s'introduisent chez elles devait être séduisant, attrayant. Certains pensent que c'était un message un peu libérateur de leur dire « Mais maintenant, en Christ, vous n'avez plus besoin d'être soumis comme ça à votre mari. Maintenant, voilà, c'est l'émancipation. Vous pouvez défiler dans la rue avec vos casseroles et dire « La femme est l'égale de l'homme, allez-y. » Bon, c'est une manière de lire le texte. En tout cas, ces gens savaient séduire. Et ce qu'on peut remarquer en étudiant ce texte, c'est qu'elles n'avaient peut-être pas la capacité d'évaluer le message qui était annoncé d'une manière juste. Et le pourquoi, c'est à cause des désirs, des plaisirs dans lesquels elles se sont entraînées, qui les a aveuglées. Vous avez déjà réfléchi hein, que finalement le péché est aussi une puissance d'aveuglement. Et quand j'ai écrit cette phrase, là, vous voyez, comme des fois peut-être l'esprit nous conduit, quand j'ai écrit cette phrase, m'est venu tout de suite à l'esprit que Jésus, qui est la lumière du monde, ne nous aveugle pas, mais lui, il éclaire notre intelligence. Il ne la brouille pas, il ne la voile pas, mais il éclaire notre intelligence. Hein? Et c'est par sa lumière que nous voyons vraiment la lumière. En tout cas, cette première partie de l'écriture de ce texte montre le besoin que nous avons de marcher dans la sainteté, donc nous séparer des choses mauvaises pour nous rapprocher de Dieu, d'étudier sa parole pour avoir une juste connaissance de Jésus, du message du salut, et d'être capable de discerner les choses mauvaises qui peuvent pénétrer dans l'Église. Je vous ai déjà mis en garde, je le refais encore une fois, attention, tout ce qui est écrit sur Internet n'est pas à gober bêtement. Hein, il y a des gens qui se font un nom sur Internet, essayez d'étudier un peu leur vie avant de voir vraiment si tout ce qui est écrit, on peut le prendre et le gober comme ça. Et versets 10 à 17, c'est plus une exhortation à Timothée. Et les versets 10 à 13 doivent nous interpeller à nous qui sommes plus anciens. Interpellera peut-être moins les jeunes, mais ça peut nous faire réfléchir. Parce que je me dis que Paul, il est en train d'encourager son poulain. Là. Mais son poulain, il l'a connu, il avait 20 ans, maintenant il a 35 ans, ça fait 15 ans que Paul est le mentor de Timothée, qu'il l'encourage. Hein, c'est lui qui l'a pris avec lui, qui l'a formé, il a voyagé avec lui, il a confié des missions et tout. Et là, franchement, on voit un Timothée qui a grandi, mais qui a toujours besoin d'avoir un Paul qui l'encourage. Apparemment, il avait un caractère pas très fort, il était peut-être un peu, certains disent, une tendance un peu à la déprime, ou à se laisser un peu envahir par les charges et tout. Mais Paul est là, et tout le temps, il l'encourage, il est derrière lui. Il le met en garde, mais il dit, allez mon gars, faut y aller, on est des soldats de Jésus, faut marcher. Et je trouve que c'est beau, cette phrase que Paul dit, en gros, lui dit, en moi, tu as eu un modèle à suivre quand tu étais avec moi. Rappelle-toi le modèle que j'ai été pour toi. Voilà. On peut se demander, hein, est-ce qu'on est vraiment des modèles ou qui a été notre modèle? Moi, je sais qu'à l'Institut, j'ai eu un prof qui a été un modèle. Je ne sais pas si j'ai raconté, je m'excuse, si j'ai raconté, vous patienterez, mais ça vaut la peine d'écouter. Le prof s'appelait Jean-Claude Boutinot. Un coup, il est rentré en cours et on étudiait dans l'évangile de Jean tous les passages où Jésus dit « je suis le pain de vie, je suis la résurrection », tout ça. Et il prend un passage à la fin de l'évangile de Jean où il est dit « je suis », mais c'est pas « je suis », c'est traduit par « c'est moi ». C'est quand les brigands arrivent, les pharisiens, pour arrêter Jésus, qui cherchez-vous Jésus, il dit c'est moi. Et là, ils tombent tous à la renverse. Et là, il dit, voilà, c'était un je suis renversant. Et une jeune, qui était là, elle avait une vingtaine d'années, elle a dit, ben non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que là, il dit pas je suis la résurrection, je suis le pain de vie, mais c'est plutôt qu'il dit c'est moi pour se présenter quelque part. Alors il a dit, bon, écoutez, je vais vérifier. Et le lendemain, on avait première heure de cours. Il a dit, Rebecca avait raison hier, je me suis trompé, c'était pas je suis, donc vous effacez ça de vos notes. Il n'a pas eu besoin de nous faire un long discours sur l'humilité. Parce que le silence est resté dans la classe pendant au moins 15 secondes, tout le monde se regardait. Le prof qui venait avouer que finalement il avait fait une erreur. J'ai trouvé que c'était vraiment beau, vous voyez. Ça fait plus de 20 ans, et je m'en rappelle encore, ça m'a marqué. Et ce gars-là, il s'était fait voler sa voiture, comme j'ai travaillé dans les voitures, donc ils l'ont retrouvé, je lui ai dit, il a racheté des pièces à la coche, je lui ai retapé sa bagnole. Et ce gars-là qui était pauvre, je lui ai dit, c'est bon Jean-Claude, je vais m'en occuper. Ah non, attends, j'ai amené mes affaires, et il a ouvert le coffre, il a sorti un bleu, tout ça, mais bon, qu'est-ce que je dois faire Jean-Pierre? Et ça me faisait drôle, parce que je voyais comme prof au-dessus de moi, et là les choses étaient... inversé. Vous voyez, par son comportement, il a été un modèle. Et Paul, Il est dit, en moi, tu as eu un modèle. Tu m'as vu vivre, tu m'as vu enseigner, tu as vu les persécutions que j'ai eues, mais tu as vu comme j'ai persévéré parce que le Seigneur m'a libéré. Tu étais témoin, tu étais là. Il a eu un modèle. C'est beau de dire, moi, mon seul modèle, c'est Jésus. Eh bien, à midi, au repas, bien sûr, on va prier Jésus. On sait que Jésus est là, mais enfin, il ne va pas être en face de vous physiquement. Vous n'allez pas le voir manger, vous n'allez pas voir le vin du Pierrot avec lui. Je veux dire, voilà, on a besoin d'avoir des choses devant les yeux. Et qu'on le veuille ou pas, on est des modèles pour les autres, surtout pour les plus jeunes dans la foi. J'ai l'habitude de dire qu'on est des paraboles vivantes pour les gens qui vivent autour de nous. Et Paul était vraiment une référence pour Timothée. Et je crois qu'on compte une trentaine de collaborateurs qui ont travaillé avec Paul. Il a pu être un modèle. Vous avez remarqué aussi que Paul ne cache pas que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Et lui, il en a subi des persécutions. Entre le fouet, les bastonnades, les temps en prison, quand il s'est fait lapider, il a vécu des choses difficiles. Mais il évoque aussi la fidélité du Seigneur qui dit « Tu m'as libéré de tous ». Il dit « C'est pas parce que je suis Paul avec ma grande connaissance en théologie, j'avais tout compris ça, non, non, le Seigneur m'a libéré de ces choses. » Sa foi était placée dans le Seigneur même quand il passait des années en prison, et remercions le Seigneur qu'il est en prison, parce qu'aujourd'hui, on a des lettres qu'il a écrites dans ses prisons. Moi, je trouve que c'est encourageant pour Timothée d'entendre ça. J'étais ton modèle, attention, il y a la persécution, mais tu as vu comment le Seigneur m'en a libéré. C'est encourageant pour lui, parce que la charge qu'il avait était quand même importante, il luttait contre les faux docteurs, il devait asseoir son autorité aussi, parce qu'il était jeune. Si Paul parle des persécutions, il s'en rend pas. Hein. T'as vu comme je souffre pour le Seigneur ? Non, il n'en est pas là quand même. Mais je crois que ça nous rappelle que notre foi doit être fondée sur le roc, qui est la parole. Et notre modèle, c'est Jésus. Mais entre ça, il y a tous les gens autour de nous qui deviennent des modèles. Et soyons conscients que nous sommes des modèles pour les autres. Bien sûr qu'on veut tous avoir une connaissance de l'Écriture pour être solide. Bien sûr que le modèle suprême, c'est Jésus, mais entre les deux, on a besoin d'avoir des modèles, on a besoin des uns des autres. C'est un peu ce qu'a dit le pasteur Jean-Loup. Les derniers versets, Paul exhorte Timothée à rester ferme, à demeurer dans ce qu'il a reconnu comme certains. Pas dans simplement ce qu'on lui a enseigné et qu'il a dit en mais dans ce que tu as reconnu comme certains. Je dirais, c'est important vraiment d'approfondir personnellement l'Écriture, et pas simplement dire amen à ce qui est prêché ou dit dans les études ou lit dans un livre. Je dis toujours qu'il faut passer du stade « je lis ma Bible pour être un bon chrétien évangélique » au stade de « j'étudie la Bible pour apprendre à mieux connaître Jésus-Christ ». Et il invoque le pouvoir de transformation que produisent les Écritures. Ils disent, elles peuvent te rendre sage à salut. Il y a ce beau verset, toute Écriture est inspirée de Dieu, vous connaissez par cœur. Et c'est pour ça qu'elles peuvent nous transformer, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a transmis cette parole. Elles nous instruisent, nous forment et nous préparent à toute bonne œuvre. Et si Timothée veut combattre ces personnes qui s'introduisent dans l'Église, s'il veut veiller sur l'Église, s'il veut rester vigilant, avertir, être vraiment le gardien de ses brebis, s'il veut réfuter ces mauvaises doctrines, il n'y a qu'une solution. Sa foi doit être fondée dans l'Écriture et il devra être un modèle pour les autres. Et l'apôtre Paul lui demandera dans cette lettre, sois un modèle. Je retirerai quatre petites remarques pour nous aujourd'hui. Restons en tant qu'Église vigilants par rapport aux enseignements que l'on reçoit, par rapport à ce qu'on peut lire, ce qu'on peut écouter sur Internet. Tout n'est pas bon à prendre, on doit prier pour recevoir le discernement. Mais encourageons-nous mutuellement à nous former d'une manière continue pour avoir une foi solide et ancrée sur la parole. Je sais que quand on veut commencer à étudier la Bible, à dégager du temps, c'est pas facile. Il faut vraiment batailler avec son agenda pour trouver des fois une demi-journée ou une journée pour se former. Mais ça vaut la peine. Soyons des modèles de foi, de solidité, de persévérance pour nous jeunes, pas simplement en âge, mais les jeunes dans la foi. Rappelons-nous, il y a un temps pour être des Timothée et il y a un temps pour être des Paul. Amen.